Vous écoutez
RMC.
Jeudi 18 juin.
L'info sur RMC.
Il est 8h01, merci d'être avec nous. Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour à tous. Air France s'apprête à tailler à la hache dans ses effectifs. La compagnie pourrait supprimer jusqu'à 10 000 postes selon les échos. Des ajustements seront nécessaires mais pas de départ forcé. Ce serait la ligne rouge, dit ce matin le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Et si les publicités pour les produits polluants étaient interdites? C'est une piste proposée par la Convention citoyenne sur le climat. Révélation de RMC ce matin. Explication à suivre. Sur les pas du général de Gaulle, Emmanuel Macron attendu à Londres pour célébrer les 80 ans de l'appel du 18 juin. Bienvenue sur RMC. C'est un plan de départ d'une ampleur inédite qui s'annonce chez Air France. Jusqu'à 10 000 postes supprimés selon les syndicats, selon les échos. Personnel au sol, steward, pilote, aucune catégorie ne devrait être épargnée. Ce matin, le ministre de l'économie confirme des ajustements nécessaires. Il ne doit pas y avoir de départ forcé, déclare Bruno Le Maire, qui dit toutefois espérer moins de 8 000 suppressions de postes. Alors pour l'instant, les chiffres ne sont pas officiels. Les salariés devraient en savoir plus le mois prochain. Aurélia Manoli.
Oui, les syndicats s'attendent en tout cas à une coupe historique dans les effectifs. Jusqu'à 20% d'emplois supprimés, 6 000 suppressions de postes pour les personnels au sol, 2 500 pour les hôtesses et stewards, 400 pour les pilotes et même 1 300 pour la filiale régionale HOP. Pour le secrétaire du comité social et économique de HOP, Joël Rondel, l'annonce est un véritable coup dur.
On s'attendait quand même à des gros chiffres, mais c'est catastrophique. Le problème, c'est que on n'est pas à notre premier plan social. On est rendu à notre 7-8e facile. On a perdu je sais pas combien d'emplois au niveau du groupe. On se demande où est-ce que ça va s'arrêter.
Avec la crise du Covid, l'entreprise s'attend à une baisse d'activité de 20% l'an prochain, mais en réalité, Air France préparait déjà un plan de restructuration. La secrétaire générale de la CGT Air France, Karine Monségu, dénonce donc un effet d'aubaine.
Cette crise est mise en avant pour accélérer le projet de transformation. Et on a l'impression qu'il y a une espèce de concours là, de quelle compagnie licenciera le plus pour envoyer des messages aux actionnaires.
Il est hors de question que l'on se laisse faire.
Le groupe compte sur des départs volontaires, favorisés par une moyenne d'âge élevée et sur de fortes incitations financières. Les négociations ont déjà commencé pour les pilotes.
Notez aussi des dizaines de milliers de départs également annoncés chez American Airlines, British Airways ou encore Lufthansa. Interdire les publicités pour les SUV dans tous les lieux publics, c'est l'une des propositions très sérieuses des 150 citoyens de la Convention Climat. RMC vous le révèle ce matin. Les conclusions seront dévoilées dimanche. Et parmi les pistes, donc, la suppression des pubs, des affiches qui font la promotion de ces 4x4 très à la mode. Thomas Chupin.
C'est en voyant une pub pour un énorme 4x4 vendu comme une familiale robuste que le député Mathieu Orphelin a tenté d'agir l'an dernier. Il a déposé un amendement pour interdire les pubs pour les SUV.
On a des publicités qui nous disent le véhicule parfait pour la ville, pour la jungle urbaine, alors que c'est évidemment loin d'être le véhicule parfait. Le gros SUV de 2 tonnes. Est-ce qu'il faut continuer à faire de la publicité? C'est une vraie question.
Ex-député LREM, Mathieu Orphelin veut même se servir de la publicité.
La publicité, c'est une action qui vise à influer sur l'acte d'achat. Mettons cette publicité au service de la transition écologique.
Alors, il est notamment question d'interdire les SUV d'affiches en ville, d'affiches dans le métro, sur les ronds-points, et Greenpeace veut aller un petit peu plus loin, interdire même les publicités audiovisuelles. Clément Sénéchal est l'un des porte-parole de l'ONG.
On veut que cette société arrête de promouvoir des industries qui sont nocives pour le climat. On peut faire le parallèle avec la loi Evin. Elle a supprimé la publicité pour tout ce qui relève du tabac et tout ce qui relève de l'alcool. Et là, on est aussi sur une réflexion sanitaire.
Greenpeace parle de la voiture, mais aussi de l'aérien et des publicités réalisées par les entreprises d'hydrocarbures, notamment celles gérant les stations essence.
Nos enfants vont enfin pouvoir jouer normalement dans la cour de récré. À partir de lundi, les règles vont changer. Protocole sanitaire considérablement allégé. Terminé les distances obligatoires à la maternelle, ce qui va permettre le retour de tous les enfants à 2 semaines du début des grandes vacances. Reportage dans l'Ain de Florence Donjon.
Lucas savoure ses derniers jours en famille. Dès lundi, il retrouvera les bancs d'école et ses copains de moyenne section qu'il n'a pas vus depuis 3 mois. Sa maman Aurélie se réjouit à l'idée d'une reprise avec le minimum de contraintes sanitaires.
On est content de retrouver le rythme à la normale, de se lever le matin, de retourner à l'école. Il va retrouver ses copains. Maman va retrouver du temps aussi pour elle.
Dans cet établissement qui compte 7 classes et 173 élèves, on a pris connaissance du nouveau protocole sanitaire.
Bonjour, la maman de Laurie.
Pierre Favre est vice-président du syndicat national des écoles. Avec pragmatisme, il informe et rassure les parents parfois inquiets et il se félicite de l'abandon de la distanciation physique pour les plus petits.
Ils pourront également manipuler des objets. Ces objets seront désinfectés une fois par jour et pas à chaque manipulation. Donc on voit bien que là, l'effort a été fait dans le sens d'un véritable allègement et que ce qui était indispensable pour qu'une école maternelle puisse fonctionner a été acté.
Le protocole sanitaire rappelle que le lavage des mains reste essentiel et peut s'effectuer sans distance. Le port du masque, quant à lui, n'est plus obligatoire pour les enseignants si la distance d'au moins un mètre est respectée.
Après le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, mardi, c'est au tour du président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, d'être auditionné par les députés aujourd'hui. La commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise sanitaire poursuit donc ses travaux. Le texte sera examiné lundi au Sénat. Hier, l'Assemblée a voté le projet de loi sur la sortie de l'état d'urgence sanitaire après le 10 juillet. État d'urgence prolongé à Mayotte et en Guyane jusqu'au 30 octobre. RMC 8h07, aujourd'hui, cela fait 80 ans que le général de Gaulle a lancé l'appel du 18 juin. Emmanuel Macron est attendu à Londres pour commémorer l'événement historique. Avant cela, rendez-vous au Mont-Valérien en région parisienne. Didier Fouquet, le maire de l'Île-de-Sein, sera présent également. Il est revenu ce matin sur RMC sur la visite surprise de Marine Le Pen hier sur l'Île-de-Sein. La présidente du Rassemblement National a été huée par les habitants.
La famille Le Pen ne représente pas vraiment les valeurs du général de Gaulle et puis de l'esprit gaulliste et donc de l'esprit majoritaire à l'Île-de-Sein. Et puis elle nous a volé une cérémonie qui se voulait plutôt agréable, sympathique. Et voilà, on a l'impression qu'on nous a, en plus d'un symbole, volé une fête. Puis même si le FN a changé de nom, je pense que les personnes sont toujours là et que l'esprit est toujours là aussi.
La France est-elle raciste? Le rapport annuel de la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur le racisme doit être dévoilé à la mi-journée. Un rapport qui devrait montrer une nouvelle hausse des actes racistes en France. Entre 2007 et 2018, ils avaient déjà augmenté de 20%. Pourtant, beaucoup de victimes ne voient pas l'intérêt de signaler les faits dont ils sont victimes. Donc, et Martin Bourdin a pu s'en rendre compte dans les rues de Marseille avec Gladys Lafitte.
Plus que les regards parfois déplacés dans la rue, ce sont les mots de certains qui blessent Najida.
Des petits ou des grands, ils me traitent de noir ou ils disent que j'ai un gros nez, des trucs comme ça. Pour eux, c'était pas méchant. Genre, si on leur pose une question, on leur dit si c'est des racistes, ils vont dire non, c'est juste comme ça.
Des insultes que cette Marseillaise de 21 ans entend régulièrement. Pourtant, elle n'a jamais porté plainte.
Je me dis, il y a des choses plus graves que ça, en fait. Si c'est vraiment grave, vraiment du vrai, vrai racisme, ça me frappe, par exemple, je porterai plainte.
Elle n'est pas vraiment un cas isolé. Fatima non plus ne voit aucun intérêt à aller au commissariat pour signaler des insultes racistes.
Si on te traite de nègre, tu vas au commissariat, tu dis quoi? Ils ont parlé de la couleur de ma peau, je suis noire. Alors, au fil des années, j'ai fini par ne plus m'en rendre compte, que j'ai fait plus attention.
Et rien dans le système judiciaire français n'incite les victimes à porter plainte, regrette Pauline Birolini, juriste à SOS Racisme.
Pour une injure raciste à caractère privé, donc on encourt 1500 euros d'amende maximum, donc souvent c'est des amendes assez faibles. Les dommages et intérêts alloués à la victime sont assez faibles aussi. C'est pas très encourageant comparé à d'autres infractions qui pourtant sont tout aussi graves.
Elle estime que 3 plaintes déposées sur 4 n'aboutissent à aucune procédure judiciaire.
Les JO 2024 sont encore loin, mais la Seine-Saint-Denis s'y projette déjà. Le département le plus pauvre de France compte en partie sur l'organisation des Jeux Olympiques à Paris en 2024 pour ne pas sombrer. L'association de quartiers de la ville de Saint-Denis a un objectif très clair et prioritaire, favoriser l'emploi local sur les chantiers. Antoine Arlot.
Les travaux du village olympique ont débuté en novembre dernier dans le 93 et pour apporter de la main-d'œuvre locale et éloignée de l'emploi, des régies de quartier du département ont pu se lier à un grand groupe immobilier. Mathieu Clément est le directeur de la régie de Saint-Denis.
Il y a en gros entre 20 et 30 emplois annuels pendant 4 ans. Si on peut le faire à plusieurs, ça veut dire qu'on donne aussi de l'emploi aux gens qui sont sur les villes voisines de Saint-Denis et Saint-Ouen qui vont être celles dans l'épicentre du village.
Fatih, 58 ans, fait des travaux de peinture pour la régie de quartier. Il y a 25 ans, il avait participé à la construction du Stade de France. Il aimerait passer le relais aux plus jeunes.
J'aimerais bien former des jeunes. Si on prend un grand chantier, par exemple pour 2024, on peut les garder avec nous 3-4 mois, comme ça, le temps de le bien former.
À l'image de Stéphane Troussel, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, les élus locaux sont attentifs à l'utilisation d'une main-d'œuvre locale sur les chantiers des Jeux Olympiques.
Les habitants de la Seine-Saint-Denis, c'est pas à Thomas Barr du CIO qu'ils vont demander des comptes. J'ai une responsabilité, c'est que ces Jeux, ce soit une opportunité formidable pour transformer et réparer la Seine-Saint-Denis.
Et d'ici à la fin de l'année, un site internet sera créé pour recenser l'ensemble des emplois liés à l'organisation des JO de 2024.
À retenir également dans l'actualité, 6 mois après le crash de l'hélicoptère de Kobe Bryant à Los Angeles, l'enquête révèle que le pilote a dit au contrôleur aérien qu'il essayait de sortir d'un épais brouillard, un échange juste avant que l'appareil ne percute la colline. 9 personnes sont mortes dans cet accident.
Merci Céline.